quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque tous les mercredis, de 9h30 à 10h30. Bonjour, et aujourd'hui nous avons en invité André Bitton de l'association CRPA.
Bonjour.
Le CRPA, je rappelle, c'est le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Et aujourd'hui, on va revenir sur la conférence débat du 17 septembre, qui a eu lieu le 17 septembre 2022 à la GK, dans le 11e, à Paris 11e. Nous avions invité...
La teneur de ce qui s'est dit durant cette conf débat sur les thèmes envisagés.
Oui, voilà. Donc, conférences débats qui sont régulières, mensuelles, et que nous annonçons régulièrement sur l'Entonnoir.
Oui, alors, plus exactement, on en fait des conférences débats ouvertes, on en fait comme ça deux par an en principe, mais on fait une réunion mensuelle tous les mois, mais les réunions sont plutôt destinées aux quelques adhérents à l'association. Mais bon, on peut en effet, enfin moi je suis assez pour, envisager des forums un peu réunion-formation, hein, en destination de personnes psychiatrisées et de proches, avec des professionnels de bonne volonté, s'il y en a qui veulent bien intervenir, de sorte que des gens aient des éclairages moins académiques et plus fournis sur les abus psychiatriques, les modalités organisationnelles pour se défendre, pour faire valoir un point de vue distinct du point de vue professionnel et autres. Voilà. Donc la conf débat notre séminaire en fait, c'était du 17 septembre. Bon, on a été jusqu'à 18 personnes présentes. Alors la composition était la suivante, il y avait trois parents de patients, dont les pères et mères de Monsieur Romain Dupuis, le tueur de Pau, l'affaire très sinistre du crime de Pau du 17 au 18 décembre 2004, qui avait été à la base du déclenchement de l'hystérie sécuritaire contre les schizophrènes dangereux, initié par Nicolas Sarkozy à l'époque, et qui avait auguré toute une série de dispositifs dramatiquement sécuritaires en matière psychiatrique. Il y avait donc trois parents de patients. Quatre psychiatres étaient présents, il y avait le docteur Jean-Michel Kahn, ancien président de la FNAPSI, la Fédération des Nations de Malades, il y avait Mathieu BSN avec qui on travaille, il y avait la docteur Maëva Musso également, et il y avait donc Anna Balèche, qui est une psychiatre dissidente transgenre, et qui, une avocate est présente, l'avocate de la famille Dupuis, une journaliste de Mediapart, Caroline Coq-Chaudorge, et huit personnes psychiatrisées, ex-psychiatrisées, plus, si l'on compte, Anna Balèche, qui est marge des deux tableaux, psychiatrisée et professionnelle. Donc, dans l'ensemble, la thématique était intéressante. On a passé bien deux heures sur l'affaire Romain Dupuis, avec la mère de Romain Dupuis, actuellement internée depuis 2005 à l'unité pour maladies difficiles de Cadillac-sur-Garonne, Marie-Claire Dupuis, leur avocat, maître Hélène Leca, qui travaille avec Serge Portelli, l'ancien magistrat, ancien membre du syndicat de la magistrature. Et pendant une heure et demie, à peu près, maître Hélène Leca, l'avocate de la famille Dupuis, et madame Marie-Claire Dupuis, la mère de cet interné, ont détaillé ce drame épouvantable, et notamment, madame Marie-Claire Dupuis a passé bien trois quarts d'heure à nous en parler, les multiples démarches qu'elle avait faites alors que son fils sombrait dans la toxicomanie et dans la maladie mentale, dans la schizophrénie, graduellement, par étapes, entre 2000, 2001 et surtout 2003-2004, pour faire prendre en charge, ce contraint d'ailleurs leur fils, qui développait une toxicomanie très inquiétante et un délire de plus en plus ample, n'y arrivant pas, les démarches multiples qu'elle a faites, elle en a tenu un journal. Et finalement, on a abouti à ce passage à l'acte absolument dramatique et affreux où Robin Dupuis, 21 ans en 2004, fait une virée complètement sous-produit, hein, sous-produit multiple, sous stupéfiant, armé d'un poignard, rentre au centre hospitalier des Pyrénées de Pau, au pavillon de psychogériatrie, et assassine sauvagement une aide-soignante et une infirmière, décapite l'une de ses deux victimes et pose la tête sur le frigidaire. Enfin, c'est tout à fait dramatique, tout à fait hallucinant. Et donc, l'on voit à travers ces multiples démarches qu'elle a faites, qu'en réalité, on a l'envers de décor de la propagande qui a été faite sur cette affaire. C'est surtout ça.
Oui.
C'est surtout ça, c'est l'envers de décor. Et l'on s'aperçoit, et là, les intervenants ayant une certaine expérience de la psychiatrie, pour moi c'est mon cas au niveau du militantisme, ça fait longtemps que je milite sur ce terrain, j'ai eu mes propres histoires aussi de refus de soins. Hein. Et Jean-Michel Kahn, le docteur Jean-Michel Kahn, qui bosse sur la psychiatrie, il est en fin de carrière depuis son premier contact à la fin des années 70, alors qu'il avait la vingtaine et qu'il était externe. Voilà, il a été interne également à la PHP et il a beaucoup bossé, il a beaucoup travaillé sur Fernand Vidal, mais donc dans des services psychiatriques non habilités à la contrainte. Il a dynamisé les premières années de la FNAPSI, la Fédération des Nations Malades, c'est lui qui a fait de dynamiser cela. Donc bon, ce qu'il disait était très clair, moi aussi ce que j'ai déclaré était très clair, Anna Balaj également, de tout temps, la psychiatrie française fabrique ce genre de bavure. De tout temps, les institutions, par leur laisser aller la psychiatrie, parce que les prises en charge sont complètement inadéquates et barbares, co-fabriquent, co-induisent des criminels fous.
Pas une espèce de non-intervention, quelque part.
Ben, l'ensemble. Il y a ce spectre du refus de soins pour Romain Dupuis, mais il y a l'autre spectre de... Alors, cette fois, dans les années 60... de Serge Ferraton, cette affaire absolument dramatique. J'avais envoyé le Wikipédia qui maintenant est complet, puisque Serge Ferraton, qui purgeait perpétuité, est mort en 2021, à l'âge de 75 ans, à l'hôpital de Fresnes. Bien où il purgeait, c'était pour un passage à l'acte criminel horrible de 74 sur le ressort du Nord, le ressort de l'hôpital psychiatrique d'Armentières, sur le PSM Lille Métropole, pour lequel il avait été condamné à la perpétuité par la Cour d'assises de Douai en 1978, tout en plaidant sa responsabilité, un témoignage très, très, très dur, très affreux, sur ses décennies de psychiatrie dès l'âge de 10-11 ans, dès l'enfance, parce qu'il avait été basculé en IMP de l'époque, qui était la psychiatrie infanto-juvénile était absolument barbare, détaille les horreurs que cet homme a subies, des horreurs institutionnelles qui l'ont amené à cela, avec une impossibilité de réinsertion. Le Wikipédia sur cette affaire est disponible. Donc il y a d'un côté le refus de soins, de l'autre des prises en charge barbares, cruelles, inhumaines et dégradantes qui fabriquent des fous furieux, ceux dès l'enfance, des gens dangereux, ceux dès l'enfance. Alors maintenant, avec les surprescriptions de Ritaline et autres, je ne dis pas, hein, tu vois. Donc, en fait, c'est l'ensemble de ce spectre, et ce que l'on a vu se dessiner, c'est une démission, une faillite du circuit institutionnel par rapport à un jeune homme de province. Alors, il est vrai que la famille Dupuis habite à une dizaine de kilomètres de Pau, donc dans un village. Donc c'est bien une affaire terroir dans un terroir, dans une province, finalement, où finalement la population concernée, qui devrait être prise en charge attentivement, est abandonnée, tout simplement abandonnée. Et cela, on le voit aussi, moi, là où j'habite, dans le quartier populaire où j'habite, clairement, ce quartier a été abandonné, livré à des trafics de drogue, comme beaucoup d'autres quartiers populaires, et les gens aux prises là, obligés de se débrouiller comme ils le peuvent. Avec de temps en temps, la répression tombe, mais une répression sans suivi, qu'est-ce que ça peut faire ?
Oui, c'est-à-dire que aussi, on peut rappeler que les faits divers qu'on constate dans la presse, d'actes sanglants commis par des personnes psychiatrisées, font état superficiellement des choses, puisqu'ils n'expliquent jamais le contexte social.
Pratiquement jamais. En amont. Ce n'est pratiquement jamais contextualisé. Oui. Ce que l'on lit le plus souvent revient à on ne sait pas pourquoi, la personne a éclaté dans une crise, etc. La personne qui en quelque sorte se barricade et fait le forcené dans un coin, si bien que le GIGN, le RAID ou je ne sais quoi sont appelés au renfort pour négocier. La crise classique est inexpliquée, l'environnement apparaît virginal par rapport à ce fautif malade mental, grand fou, criminel, etc., qui lui doit être supprimé ou tout le moins neutralisé. Et l'environnement familial, l'environnement social, est généralement sort de cela avec une netteté virginale qui laisse stupéfait. Ainsi, je me rappelle d'un fait divers qui avait été rapporté par la presse il y a quelques années, 3-4 ans, dans un coin de province, où visiblement la personne dans un chantier qui s'était barricadé avait été flouée par son patron. Étant frustre, était détenteur d'armes, s'était barricadé avec des armes à feu. Mais je veux dire, pour que le patron soit mis en cause dans cette affaire, c'était notre paire de manches. Mmh. Le contexte familial également. Familial. Donc là, on a eu donc cet exposé et ce que... Alors, Maître Lecas, l'avocate, avait synthétisé cela. Moi, j'avais mis en exergue une phrase de Mme Marie-Claire Dupuis dans son témoignage, dans son récit, qui était « C'est le silence qui a été la réponse à nos appels à l'aide ». Nous appelle à l'aide, qui s'étage entre 2001 et 2004, et qui précisément deviennent beaucoup plus pressants entre 2003 et 2004, lorsque le gradient se met en place pour leur fils Romain. En 2003, il a 20 ans, en 2004, il a 21 ans, entre les stupéfiants et la montée en puissance de l'atteinte schizophrénique. Bien. C'est le silence qui a été la réponse à nos appels à l'aide, cette phrase que j'ai mise en exergue. Donc c'est un désert et une absence d'écoute qu'ont traversé et subi les parents de Romain Dupuis de la part des autorités psychiatriques et de police. Des années de souffrance et d'errance à voir leur enfant sombrer. Romain est stabilisé depuis plusieurs années à l'UMD de Cadillac. 5 commissions de suivi médical sont intervenues depuis 2018, concluant qu'il est stabilisé. L'arbitraire perdure, le régime des soins psychiatriques sans consentement sur décision préfectorale échappe en large partie au système judiciaire. Comme on l'a vu dans une précédente émission, on est dans un vide judiciaire où on ne sait pas quel juge est compétent pour ordonner éventuellement la levée de la mesure de soins décision du représentant de l'État en unité pour maladie difficile et que la personne soit transférée en établissement classique. Pour l'instant, c'est une décision purement préfectorale sur la base des avis successifs ou d'un avis de la commission de suivi médical, qui est une réunion de 4 experts, 4 médecins experts, dont à l'unité pour maladies difficiles, dont un médecin de l'administration et nécessairement un psychiatre expert extérieur à l'établissement. Nécessairement. Donc, pour l'instant, donc, il y a cette situation de blocage, malgré la stabilisation de Romain Dupuis, qui pourrait légitimer un transfert en établissement classique. Donc, le manque de courage et l'acharnement du procureur de la République de Gironde, on donne des chances à des détenus, mais en l'espèce, on oppose des hypothèses. Du procureur de la République de Bordeaux, mais également du préfet de la Gironde. Hein. Alors, les hypothèses qui ont été opposées, si on l'élargit, s'il tombait amoureux, il y aura un risque de décompensation. S'il refumait du cannabis, en effet, Romain Dupuis s'est sevré du cannabis depuis 2013, et notez bien, il recevait de 2005 à 2013 du cannabis par voie postale à l'UMD. Non mais vraiment, quand on apprend ça, on est choqué. Comment se fait-il que dans une unité psychiatrique de haute sécurité, l'on puisse se procurer du cannabis aussi facilement par voie postale. Hein ? Entre 2005 et 2013, il a été transféré d'un pavillon à l'autre de l'UMD de Cadillac, qui compte 3 pavillons distincts. Sa détention est arbitraire, donc, d'après sa défense, depuis janvier 2018, le premier avis de la commission de suivi médical favorable au transfert à un établissement classique. Donc Mme Dupuis prend la parole, elle a travaillé comme conseillère emploi à Pôle emploi, elle résume l'avant-drame. La montée en puissance des troubles psychiatriques de Romain, qui démarre en 2000-2001, il avait 17-18 ans, jusqu'au passage à l'acte 2004, il avait 21 ans, et son internement en 2005. Elle cherchait à comprendre ce qui se passait pour son fils. Donc ils habitent un petit village à une douzaine de kilomètres de Pau. Le médecin de famille généraliste était spécialisé en gériatrie. Il est devenu, après le drame, responsable du pavillon de psychogériatrie du CHP de Pau, alors que Mme Dupuis le mobilisait fréquemment. Dans cette affaire, il a été parfaitement démissionnaire. Un médecin démissionnaire, médecin de famille, qui après le passage à l'acte est promu médecin attaché au pavillon de psychogériatrie de l'hôpital de Pau.
C'est incroyable.
On nage là, franchement. Donc, Mme Dupuis a fréquemment suivi son fils alors qu'il était en errance dans les rues de Pau. Elle n'a jamais eu d'aide de ce médecin généraliste qui a été démissionnaire dans cette affaire. À un moment donné, elle a tenté d'amener son fils à une consultation de psychiatrie de Pau en 2002 suite à une rupture sentimentale avec une jeune femme avec qui il était en lien depuis l'enfance. En janvier 2003, la descente aux enfers commence. Romain Dupuis allait avoir 20 ans. Il vivait chez ses parents. Le premier diagnostic posé par une psychiatre des urgences en janvier 2003. Alors, les parents de Romain Dupuis ont sollicité 5 hospitalisations à la demande d'un tiers, donc ont été 5 fois demandeurs. À partir de 2003, les hospitalisations étaient parfaitement défectueuses. Leur fils a été gardé 2, 3, 4 jours. Puis remis en circulation sans même un programme de soins et sans qu'il y ait un accompagnement en bonne et due forme. C'est-à-dire que le dispositif du suivi psychiatrique est sous contrainte et libre ou négocié libre, n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc elle s'est déplacée, ça a été même à un tel point, elle était là sollicitée, puisqu'il y avait une situation de plus en plus grave, avec son fils alternant des phases de timitrée délirante, et d'autres fois lorsqu'il était en face à face avec d'autres personnes, étant parfaitement normal, correct, etc. Autrement dit, c'est très fréquent dans ce genre d'atteinte, c'est lorsque la personne est seule et isolée que là, son délire part, et là, il y a des phases plus ou moins paroxystiques qui se succèdent. Et lorsque la personne est face à d'autres personnes, elle se normalise son comportement. C'est très fréquent, c'est d'ailleurs... C'est une exacerbation d'un préjugé tout à fait normal. Hein. C'est quand on est seul que l'on arrive plus aisément à déployer ce qu'on a en tête. C'est évidemment plus aisé, il y a moins de censure, moins de barrières. Donc à un moment donné, en 2003, alors qu'elle sollicitait désespérément une prise en charge psychiatrique, qu'elle ne voyait que sous contrainte, puisque son fils refusait les soins, refusait de se considérer malade, et donc refusait toute prise en charge, d'ailleurs, c'est une véritable impasse. Une incarcération pour consommation de stup aurait été peut-être bienvenue, hein, après tout. Bien. Enfin, ça n'a pas eu lieu. À un moment donné, elle s'est déplacée au CHP de Pau en menaçant de faire une grève de la faim. Du fait de l'absence de prise en charge de son fils, un psychiatre de l'établissement a menacé de la faire interner. Et ça, c'est des choses qui arrivent, hein, qui sont authentiques. Donc, elle, en tant que mère de famille, travaillant à Pôle emploi d'ailleurs, continue à se documenter en vue d'un objectif, comment calmer son fils. Moi, je pense que la question est très mal posée, mais bon, je le pense personnellement d'expérience. C'est pas comment calmer son fils, mais bon, elle ne savait pas, et c'est des choses qu'eux ont appris après le drame. C'est après le drame, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est chercher d'autres issues qui permettent que leur fils soit contraint de prendre une autonomie, d'aller voir ailleurs et de choisir un autre destin. C'est pas la même chose, mais bon, oui. Voilà. Il y va de décisions personnelles qu'on peut prendre par rapport à cela. Hein. Moi, je suis tenant de ce qu'un destin personnel, à un moment donné, on le tranche, soit. Ce n'est pas les autres qui tranchent pour vous, c'est soi qui tranchait sur votre destin. Alors, elle a été en 2003, donc, avec son fils au CH Charles Perrins de Bordeaux, qui est le département d'à côté, dans la même région, 200 km avec leur fils à l'arrière du véhicule. Les deux parents craignaient que leur fils n'éclate en crise. Avec un passage rapide, ultra rapide, du calme à la crise. Alors, ils ont vu cet été 2003 à Bordeaux un professeur de psychiatrie spécialisé dans les troubles bipolaires qui a minimisé l'état pathologique de leur fils. Et cet entretien était léger, trop familier. Et donc, c'est quelqu'un qui leur a dit « Laissez-le fumer son joint, c'est pas un cas de schizophrénie. » Ils sont repartis de cela, les époux Dupuis, ragaillardis pour un instant. Le professeur de psychiatrie n'avait pas vu quelles pouvaient être les conséquences de l'engrenage des crises dans lesquelles, de la toxicomanie dans laquelle ce jeune homme était rentré. Donc les hauts et les bas de Romain Dupuis. Alors chaque fois qu'on nous le rendait, les hospitalisations en question, on était là à se demander que faire. Personne jamais à chaque appel au secours, problème de personnel, de sectorisation, mais jamais d'aide. Autrement dit, on leur a posé la carence en personnel, la quasi-impossibilité dans ces cas-là d'avoir un changement de secteur psychiatrique, puisque pour un changement de secteur, il faut l'accord d'un médecin. On ne peut imposer la prise en charge au niveau de la sectorisation psychiatrique que sur le secteur dépendant du lieu d'habitation. Autrement, pour le reste, c'est d'un choix bilatéral entre le patient, sa famille et l'équipe de l'hôpital qui pourrait accueillir la personne. Alors, leur fils, Romain Dupuis, a fait des voyages pathologiques entre Paris et Londres. Il revenait de ces voyages pathologiques dans des états difficilement soutenables. Des demandes d'hospitalisation à la demande d'un tiers faites par les parents n'ont pas abouti. Des lettres de Mme Marie-Claire Dupuis aux tutelles disant qu'on allait vers l'horreur, vers un drame entre 2003 et 2004 aux détenteurs de pouvoir en la matière. Pas de réponse. Le responsable chef de service de l'hôpital psychiatrique de Pau a été sollicité par Mme Dupuis à plusieurs reprises. Pas de réponse. Il y a eu un clash avec violence de leur fils en 2004 sur son ex-petite amie qui aurait pu être une occasion de déclencher une HO, mais la possibilité de l'HO a été récusée par l'officier de gendarmerie qu'elle a pu contacter, un haut gradé d'ailleurs. Donc en leur secteur, ça n'a pas été possible. En accompagnement extra-hospitalier, ça n'a pas été instauré. Pas une seule des personnes qui leur ont claqué la porte au nez les ont regardées avec mépris n'a été inquiétée après le passage aux actes de décembre 2004, et n'a eu à répondre des responsabilités engagées dans cette affaire. Le seul qui a été exposé à la vindicte a été évidemment leur fils, passage à l'acte criminel, et leur famille qui est percutée, la famille qu'ils ont fondée qui est percutée. Donc celui-ci s'est stabilisé à l'UMD de Cadillac, suppression des sorties thérapeutiques depuis pas mal de temps du fait des carences en personnel à l'UMD. Donc leur fils a un traitement léger à l'heure actuelle à l'UMD, un traitement par injection retard et puis point. Les soignants, avec les carences en personnel, le turnover, se plaignent de ne pas pouvoir prendre en charge correctement les gens à l'unité pour maladies difficiles, les patients s'en plaignent. Il y a cette fameuse lettre de pétition des 18 pavillonnaires du pavillon Moreau de l'UMD, demandant qu'il y ait plus de personnel et que des activités et des sorties puissent reprendre. Bien. Madame Marie-Claire Dupuis constate, on a laissé tomber cet homme, il est enfermé à double tour, il y avait un soin de qualité à l'UMD de Cadillac qui a périclité ces dernières années, des dysfonctionnements à répétition, jusqu'à quand va-t-on assister à ce délabrement? Alors maître Hélène Leca, l'avocate, nous a appris que Romain Dupuis a été transféré, ça c'est intéressant, à l'USIP, l'unité de soins intensifs en psychiatrie du CH de Cadillac, entre le 10 juin, c'est-à-dire en unité classique, mais très, très sécurisé. Entre le 10 juin et le 17 juin passé, la date des ordonnances du JLD de la Cour d'appel de Bordeaux, clairement, il était mieux traité au pavillon Moreau de l'UMD qu'en USIP. C'est-à-dire que cela valide la thèse que je leur ai soutenue dès le début, et notamment sur des commentaires de Mediapart, sur un article de Michel Deléon, et qu'une infirmière psychiatrique a corroboré, à savoir que là où Romain Dupuis peut être encore le mieux traité et le moins en danger, de surdosage et autres, c'est bien dans un pavillon d'unité pour maladies difficiles, et certainement pas dans une unité classique, puisque avec les carences en personnel, avec l'ambiance ultra-sécuritaire, en unité classique, bonjour. Donc, en fait, durant ce séjour, Romain Dupuy en a été même carrément à réclamer d'être intégré à l'UMD. Bon, je crois que c'est QFD. Donc, alors, on en est, bon, dans la procédure qui poursuit son cours, la Cour de cassation est saisie, et le tribunal administratif va être saisi très bientôt, en vue d'obtenir une saisine du tribunal des conflits pour que soit tranchée la compétence entre juridictionnelle, entre la juridiction administrative et celle judiciaire, pour connaître de la question de qui peut décider de ces deux ordres de juridiction, qui peut ordonner la fin d'une mesure de préfectorat d'annuité pour maladie difficile et par voie de conséquence le transfert du patient interné en UMD à un établissement psychiatrique classique. Alors, Madame Dupuy reprend la séquence après le passage à l'acte en 2005, lorsque le passage à l'acte, l'affaire Dupuy, a été utilisé par les médias et les politiques. Nicolas Sarkozy, qui a été de nouveau ministre de l'Intérieur de 2005 à 2007, a en gros sorti à propos de cette affaire, cet individu ne sortira jamais. Bien. Il a été suivi en cela par Rachida Dati, qui s'est servi de cette affaire pour la réforme de l'irresponsabilité pénale 2008. Elle a été garde des Sceaux de 2007 à 2009, lorsque Nicolas Sarkozy est passé président de la République, et par Michel Alliot-Marty, qui était garde des Sceaux en 2005. Il fallait donc abattre ce malade, et si on ne pouvait pas l'enfermer ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la problématique qui se développe est due au fait que Romain Dupuy a pu être arrêté en janvier 2005 sans casse, et que s'il s'était défendu, il aurait pu être abattu, ce qui aurait réglé la question. Donc, le 29 août dernier, donc, la pétition des 18 pavillonnaires de l'unité Moreau de l'UMD. Hein. Alors, ce qui est ressorti en fin d'intervention est le désespoir des parents et celui de Maître Hélène Lecat de ne pas voir l'issue du conflit en cours. Alors, je n'ai pas été seul à les rassurer, d'une part, sur l'état de mobilisation de Romain, si celui-ci, de Romain Dupuy, si celui-ci est motivé pour collectiviser une protestation telle celle des pavillonnaires de l'unité Moreau, c'est qu'il est tonique, qu'il a un but et du réseau. Les docteurs Mathieu Bellassène et Jean-Michel Kahn-Filacher ont soutenu également ce point de vue. Le docteur Kahn, qui est en fin de carrière, a soutenu qu'en fait ce naufrage est de tout temps. Sur le fait qu'on ne connaisse pas l'avenir, ce que j'ai défendu, j'ai soutenu que le réseau de soutien actuellement en place, avec en plus le soutien de la pétition des patients au pavillon Moreau par la responsable CGT du CH de Cadillac, et l'écho du communiqué qu'a préparé Mathieu Bellassène et que le printemps de la psychiatrie a signé et diffusé, tout cela ouvre des perspectives qui jusque-là n'étaient pas en place. Il est certain que dans cette affaire, il est peu probable qu'il y ait un transfert décidé prochainement d'UMD en unité classique, du fait des ordres en hiérarchie reçus tant par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que par le préfet de Bordeaux, mais aussi du fait du contexte sécuritaire actuel. Par contre, la lutte juridique pour obtenir une décision de compétence judiciaire par le tribunal des conflits en direction du JLD est résolument fondamentale. Elle permet et consolide une mobilisation médiatique. Maître Hélène Lecat, avocate, craint que son client ne craque. Je l'ai rassuré, de même que Jean-Michel Kahn et Mathieu Bellassène. Il faut maintenir du réseau extérieur autour de cet homme et de sa famille, de sorte que cette mobilisation protège Romain et facilite, Romain Dupuy, et facilite une éventuelle issue favorable. On est là dans une affaire de perpétuité psychiatrique. En fait, si Romain Dupuy et sa famille sont épaulés de l'extérieur, cela les renforce. Ça leur donne du réseau et donc cela les motive pour continuer un peu cette mobilisation. Sur l'absence en l'état de... Alors bon, ce que j'en pense, moi, c'est qu'il n'y aura pas d'issue favorable avant fort longtemps. Et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable. Il ne faut pas, et les juridictions en conviendront, il y a un délai de décence par rapport à des passages à l'acte absolument horribles, de type les peines incompressibles, qu'il faut évidemment respecter. D'abord, aucun magistrat ne prendra la responsabilité d'ordonner une levée, puisque la carrière du magistrat sera encourue. Parce que c'est même si la magistrature, le siège, les magistrats du siège sont indépendants, il n'en reste pas moins qu'ils sont désignés dans leur mutation par un décret du président de la République, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais quand même. Donc, pour des raisons de simple cohérence juridique, ça ne se peut pas qu'il y ait un assouplissement en bonne et due forme avant pas mal d'années. Mais bon. Donc, sur l'absence de mise en cause de la responsabilité du CH de Pau et de l'État qui, dans cette affaire, au titre de l'obligation de moyens, entre autres, aurait dû agir en prévention de ce drame, je leur ai cité le précédent de l'affaire Benjamin Selam, un jeune homme assassiné en 2003 par un ancien copain, lui, musulman, du fait qu'il avait pu percer comme DJ alors que cet ancien collègue et voisin avait jeté sans issue. Ce dossier avait été défendu par Maître Metzger, un avocat de la communauté juive parisienne. Dans cette affaire, le PSM de Maison-Blanche a été condamné par la juridiction administrative à 30 000 euros de réparation aux ayants droit du fait de ne pas avoir anticipé le risque dangereux de cet homme. Cette affaire avait fait partie du déclenchement de la mobilisation des instances communautaires juives par rapport à ce genre de faits divers, laquelle s'est caractérisée après l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006. C'était clair, quoi. La communauté juive se mobilisait, et puis voilà. Donc, Madame Marie-Claire Dupuy m'a répondu, c'est l'affaire Ilan Halimi, c'est le gang des barbares, hein. C'est un truc absolument horrible. Madame Marie-Claire Dupuy m'a répondu qu'elle s'en était pas sentie d'assumer deux conflits en même temps et qu'elle avait laissé de côté cette hypothèse procédurale. Alors, il y a eu enfin de séminaire un échange avec M. Châtelain du NAFAM. Sa question était la suivante. Que faire lorsque des fils de famille restant à domicile violentent leurs parents, en l'espèce des mères de famille, dans un foyer monoparental ? La question du logement et de l'intégration professionnelle et de l'autonomie des personnes suivies, enfants ou jeunes, en psychiatrie, dans ces affaires, est une vraie question. Parce qu'on note une exacerbation des conflits de famille lorsque les jeunes ne peuvent même pas quitter leur foyer familial. Des chertés des loyers, défauts professionnels, etc., etc. Par ailleurs, se pose une question juridique similaire à celle qui a été tranchée dans l'affaire Selam par la juridiction administrative, engager la responsabilité de l'établissement et de l'État pour négligence et défaut de prévention. Il est convenu que je lui envoie la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris de 2014 dans l'affaire Selam, ce que j'ai fait. Jean-Michel Kahn-Filanchet est intervenu sur ce point en rappelant le dispositif ERIC des Yvelines, une équipe d'intervention à domicile pouvant faire une hospitalisation sans consentement si besoin, mais aussi évaluer la situation sur place et discuter avec les personnes. Ce dispositif n'est pas encore spécialement répandu. L'UNAFAM en réclame l'extension. Ce serait préférable à bien des égards, mais ça dépend comment c'est fait. C'est tout, ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait correctement, ok. Si c'est une intrusion, comme on en voit souvent dans la vie privée des malades, à ce moment-là, c'est une véritable catastrophe. Alors, j'ai soutenu un point de vue sur le destin individuel. Il appartient aux jeunes et aux personnes aux prises avec des situations bloquées, pathogènes et criminogènes de rompre avec cet engrenage et de prendre une telle décision qui permet que l'engrenage soit modifié, qu'on en sorte. Par exemple, prendre ses clics et ses claques, se barrer, zoner, mais faire sa vie différemment. Alors là-dessus, donc, on constate un dysfonctionnement général de la psychiatrie, une situation de faillite, et il nous semble utile de se saisir de la situation de Romain Dupuy pour démontrer le déni institutionnel face à la gravité de ce genre de situation. Car enfin, il faut souligner que dans la propagande des années 2000 sur l'affaire Romain Dupuy, il a été mis en avant la nécessité d'enfermer et de traiter les schizophrènes dangereux, mais il n'a absolument pas été souligné les carences du dispositif de prévention. Et ça, l'administration et les pouvoirs politiques en place ont mis de côté cette affaire. Si bien que quand on est au courant avec le récit de Madame Dupuy et pratiquement ce journalier des démarches qu'elle a faites avant le drame, on se rend compte que ce drame aurait pu être évité.
Il y avait des prémices.
Mais il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Il y a simplement une faillite du dispositif, de la politique de prévention, notamment de la politique de prévention au niveau des troubles liés à la toxicomanie. Et puis d'abord, comment se fait-il que des internés puissent se procurer du cannabis librement dans un établissement psychiatrique ? Comment se fait-il que la lutte contre le trafic de stupéfiants dans ces coins-là de France, comme d'ailleurs de façon généralisée, sauf quelques poches dans lesquelles la police judiciaire a des consignes et y va, comment se fait-il qu'on laisse faire de tels trafics ? Comment se fait-il également que l'on laisse se déployer de telles atteintes en répondant aux gens tant qu'il n'y a pas un truc paroxystique, on s'en fout ? Donc après, on vient nous dire, bon, évidemment, la carence de personnel, etc., c'est la philosophie, le système de prise en charge qui est mal vu. Parce que, bon, une politique de prévention en bonne et due forme, c'est ce que j'avais dit à Madame Dupuy, s'il y avait eu, sur votre lieu, sur Pau, un dispositif de secteur psychiatrique correctement déployé, des groupes d'entraide mutuelle et des mouvements de patients autorisés à développer des antennes, à développer des permanences et un réseau d'accès aux droits, un réseau d'accès aux droits joint au réseau d'accès aux soins qui permettent aux gens de s'y retrouver et de circuler là-dedans avec un réseau de prise en charge alternative, un réseau de prise en charge plus institutionnel, le réseau institutionnel, comme il y en a, c'est ce qu'on a vu, qui marche très bien sur le canton de Lausanne en Suisse, avec le GRAP. Bah, écoutez, ce jeune homme, il aurait pu être sauvé avant, tu vois. C'est pas le cas. La région de Pau, c'était à l'époque, puisqu'on avait été alerté, un désert au plan prévention, un désert au plan prise en charge. Et les prises en charge étaient là-dedans, et les syndicats s'en plaignaient d'ailleurs, des prises en charge vétérinaires, du gardiennage médiqué.
D'autant que ce phénomène, cette violence, elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a le cannabis, certes, d'une part, mais aussi des facteurs comme le terme, c'est psychogénèse, sociogénèse, organogénèse, des troubles mentaux. Et donc, dans ces domaines-là, il n'y a pas grand-chose de prospection qui sont faites.
Quand les dispositifs de proximité sont carencés, sous-développés, voire pas développés, quand les réseaux d'entraide sont très importants.
Oui. Hein,
les réseaux d'entraide sont très importants. Oui. Il y a une étude récente menée par la docteure Aurélie Tinland sur l'APHM de Marseille et un réseau de chercheurs, mais également de pères aidants professionnels, sur les directives anticipées. Hein. Il va y avoir un colloque le 16 novembre au ministère de la Santé là-dessus. Que dans le cas où des patients déjà connus du circuit psychiatrique ont pu déposer dans le cadre de systèmes de pères aidants, et dans le cadre de cette étude aussi, des directives anticipées, c'est-à-dire de ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas en cas de réhospitalisation. Ces directives anticipées, inscrites dans le dossier patient à l'hôpital, on a observé une diminution du nombre de réhospitalisations de moins 30%. Bon, donc cela prouve également, on sait très bien, que là où il y a un tissu et de pères aidants, groupes d'entraide mutuelle, réseaux de soutien, etc., notamment pour des gens atteints de troubles de toxicomanie, les rechutes sont moindres et de moindre intensité. Bon. Donc en fait, la problématique de l'hôpital de Pau à l'époque, c'était le désert au plan de la sectorisation psychiatrique, la non-autorisation et l'absence de déploiement des réseaux de pères aidants, des réseaux de soutien, des réseaux pair à pair, localement,
oui.
Bien, et une carence dans la prise en charge. Ça a co-induit ce drame, quelque part. Alors évidemment, pour le reste, la question de savoir si à l'époque, dans la région de Pau, un jeune homme comme Romain Dupuis pouvait ou non engager un cursus et se stabiliser à travers une professionnalisation quelconque, c'est une question posée. Oui. Mais ça fait maintenant depuis plusieurs générations que les jeunes générations, au sortir du lycée, pratiquement, sont abandonnées. C'est pas nouveau. Donc, alors, toujours est-il que, par ailleurs, quand on a discuté, quand les gens dans la SEC étaient présents, ont discuté avec Maître Hélène Leca, et Madame Dupuis, il y a un moment donné, Jean-Michel Kahn Filachet, le docteur Kahn Filachet, qui a pris la parole et décrit ce qui se passait sur un hôpital psychiatrique où il a bossé pendant quelques années, pendant 3 ans, en tant que contractuel, en tant que psychiatre contractuel, l'hôpital de Prémontré dans l'Aisne, qui est un hôpital passablement mal géré, répressif et maltraitant, et qui contient une USIP, unité de soins intensifs en psychiatrie. Bon, lui officiait, dans une unité, bon, voilà. Et donc, lorsque ses patients étaient, admis D'abord, l'USIP étant réservé à tous les entrants, c'est-à-dire tous les entrants à l'hôpital Prémontré dans l'Aisne passent, sauf indication contraire, par cette unité de soins, puis sont dispatchés. Ou bien, lorsqu'il y a une difficulté à l'admission quelconque, le ton monte et paf, on les envoie, on envoie les patients en USIP. Donc, il avait noté que, il avait observé cela, que lui, lorsque les patients du secteur et du pavillon sur lequel il était attaché en tant que praticien contractuel, bien était transféré en USIP, lui allait rendre visite à ses patients. Oui. Disant, bon, bah, c'est mon patient, je vais à l'USIP, je vais avoir un entretien avec mon patient. Et ça gênait l'équipe de l'USIP. Donc, on le laissait passer, mais bon, ça gênait leur inertie, leur fonctionnement. Eux, ils entendaient fonctionner en vase clos et que leur maltraitance et les traitements inhumains et dégradants, casematage, isolement, contention, etc., ça se passe en 12D et qu'on n'en parle pas trop en extérieur.
Il fallait qu'ils bataillent pour qu'on le laisse passer.
Oui. Alors, à un moment donné, bon, on l'a laissé faire un certain temps, et à un moment donné, ça a crispé. Et à un moment donné, il voulait rendre visite à un de ses patients, et donc il raconte que le cadre supérieur de santé, ou le médecin attaché à l'USIP, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus, lui a dit « Non, vous ne passez pas ». Alors, lui a menacé de saisir le Conseil de l'Ordre. Ce qui était inopérant, d'ailleurs, hein, parce que le Conseil de l'Ordre n'est pas compétent dans ces cas-là, mais enfin bon. Toujours est-il qu'à partir de là, le médecin l'a laissé passer, mais après, ça fait une esclandre de plus en plus vaste au niveau de la commission médicale d'établissement, la CME, de telle sorte qu'il a été convoqué au directeur de l'établissement, qui lui a fait savoir que, bon, ben, ça va bien, il gênait, le docteur Kahn gênait. Nous aussi, on gêne. Moi, on m'a dit que je gênais. Enfin, je ne sais pas quoi faire. C'était me jeter sous le pont de la Seine. Enfin, je ne savais plus quoi faire, comme d'habitude. Donc, il était là, on lui disait qu'il gênait. Il essayait de faire son travail de façon déontologique et il gênait le fonctionnement inertiel de l'autre colonie pénitentiaire de Prémontré dans l'Aisne. Bien. Alors, lui était en fin de contrat, puisqu'il était contractuel. Il n'a pas renouvelé son contrat. En disant, moi, je peux pas faire mon boulot. Oui. Il a trouvé une embauche dans une clinique dans le département d'à côté et basta. Mais enfin, c'est tout dire. C'est tout dire.
C'est dire aussi l'abandon auquel sont livrés les patients en USIP.
Les patients et la répression qui tombe sur les professionnels qui entendent avoir une pratique déontologique.
Oui.
La répression tombe sur les professionnels qui entendent avoir une pratique déontologique et qui gênent un fonctionnement à l'inertie de ces institutions que quelque part, un de ces quatre, il va falloir baptiser non pas colonie pénitentiaire au sens du roman de Kafka, mais d'un intitulé analogue. À l'époque où je m'empaillais en tant que patient avec la direction de Perret-Vaucluse, je leur avais envoyé des courriers puisque Perret-Vaucluse, il y avait à un moment donné CHS, Centre Hospitalier Spécialisé.
Oui.
Et donc, je m'étais dit, oh ben, il faudrait supprimer le H, ça sert à rien, il faut mettre CS, Centre Spécialisé. Puis après, supprimer le S et mettre Centre Pénitentiaire Spécialisé.
Oui. Oui,
bref, rayez tout, mettez ancien asile d'aliénés.
Une prison bis médicale, celle-là.
Bon, donc c'était particulièrement, enfin, cette partie de cette conf était particulièrement éclairante en ce qu'on a pu dénoter d'après le récit même de l'intéressé, la parente, la mère de famille, c'est que en réalité, cette situation dramatique et ce passage à l'acte criminel absolument horrible ont été co-induits par les carences du dispositif de secteur et de proximité dans la région de Pau.
Eh bien, nous allons faire une pause avec François Béranger, Tranche de vie.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Radio Libertaire, c'était François Béranger. Et nous reprenons l'émission, il ne nous reste plus que 10 minutes.
Oui, alors après cette longue discussion et ce long témoignage de Mme Marie-Claire Dupuis et de l'avocate de la famille Dupuis, il y a eu l'intervention de la docteure Anna Balège, psychiatre dissidence, transgenre, jointe au point 3 sur la question de la mobilisation des psychiatrisés. Donc la docteure Anna Balège, qui est praticienne, enfin psychiatre des hôpitaux, et qui a été psychiatrisée elle-même étant enfant, a décrit son parcours. Elle a fait une transition transgenre ces dernières années. Bon, et elle a été amenée à refuser de travailler plus amplement pour une institution psychiatrique. Alors, je retiens une citation de ce qu'elle dit, de ce qu'elle décrit de son parcours, parce qu'elle est sur des positions qui sont des positions très pour la mise en application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dont la rédactrice principale a été Mme Tina Minkowicz, une survivante de la psychiatrie américaine, devenue juriste. qui a été animatrice du mouvement mondial des usagers suivants de la psychiatrie et qui est une, la principale rédactrice de cette convention. Donc, citation de la docteure Anna Balège, « La science psychiatrique s'est construite après la pratique. On enferme, puis on construit un savoir a posteriori. » Fondamentale, la fondation fondamentalement, cette discipline, la psychiatrie, n'existe que pour servir un pouvoir. Et n'existe que pour, centralement que pour sa fonction répressive.
Ce sont des thèses qu'on partage ici aussi.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact. Il n'en reste pas moins que... Enfin bon, à partir de là, ça se discute. Oui, moi aussi, je les partage. Donc en fait, la conclusion à laquelle elle arrive, c'est que, à la limite, c'est une conclusion paradoxale, qui consiste à dire, puisque finalement, l'essence de la psychiatrie, c'est la répression, c'est le contrôle médico-social, donc force est de constater qu'on ne doit pas dire que la psychiatrie française actuelle dysfonctionne, mais qu'elle fonctionne très bien, puisqu'en fait, elle remplit son office.
Ah oui.
Donc, une conclusion fort paradoxale, mais qui ouvre bien une discussion qui me paraît tout à fait élémentaire sur la question soins ou répression. Est-ce que cette discipline est une discipline de soins, une discipline médicale à proprement parler ? Est-ce qu'elle est là pour améliorer les choses, pour faire que la souffrance soit moindre, ou est-ce que c'est une discipline répressive ? Et ça, c'est une vraie question, c'est une véritable polémique. Donc, la docteure Balège a développé un argument en faveur de la thèse abolitionniste en matière de soins sans consentement, qui est celle du Réseau européen des usagers survivants et de Tina Minkowicz, mais aussi du Comité des droits des handicapés des Nations Unies. Alors, son point de vue est radical. Elle se positionne pour l'abolition de toute mesure de contrainte et de l'internement psychiatrique. Alors, là-dessus, la discussion est toujours, celle-ci, finalement. Cette conception abolitionniste a été défendue des années 60 aux années 90, je devrais dire des années 60 aux années 2000, d'ailleurs, par les courants désaliénistes et antipsychiatriques, qui étaient à l'époque, dans les années 70, formés pour l'essentiel de futurs professionnels de la psychiatrie. Elle a eu comme traduction concrète... puisque cette conception, cette revendication abolitionniste, c'est une revendication maximaliste, elle a eu comme traduction concrète pendant pas mal de temps en France un consensus de ces courants professionnels pour bloquer les réformes sur ce terrain. Eh oui, c'est ça qu'on oublie. Oui. Ce qui a conduit les gouvernements successifs depuis les années 80 à passer en force des réformes hospitalières successives. Et qui sont passées en force. Il faut bien voir que les ordonnances Juppé de 96 sont passées par ordonnance. Hein. C'est une législation passée par ordonnance. Cette même situation a conduit à la marginalisation pendant très longtemps en France de toute problématique relative à une mise à effet des droits des patients en psychiatrie, renforçant un certain totalitarisme psychiatrique. En matière politique, il est connu que des revendications maximalistes conduisent au maintien du statu quo. Une différence notable entre la période antérieure et celle actuelle est que cette conception abolitionniste est portée par des patients et ex-patients. Et donc ça, c'est vraiment très différent. Sur la base de l'entrée en vigueur, en mars 2010, en France, de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Moi, je suis tout à fait favorable, et je vois ça d'un bon œil, qu'il y ait une imprégnation en France de cet état d'esprit et des textes de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Mais ce que je trouve quand même à noter... et qui n'est pas incident, c'est que des fonds sont dégagés, des fonds de recherche sont dégagés de laboratoires de droit, santé mentale, etc., enfin, et sociologie, pour capitaliser un certain nombre de patients et ex-patients en psychiatrie sur une applicabilité éventuelle et très future des bases de cette Convention internationale des droits des handicapés en matière de santé mentale, bien, en quelque sorte en tant que diversion, par rapport à l'état de la situation actuelle en France. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Mais bon, il n'en reste pas moins que ce que dit la docteure Balège à un moment donné, qui me paraît très intéressant, c'est qu'on doit, en France, développer une revendication, sur le consentement libre et éclairé en matière de soins psychiatriques. Et donc, prendre appui sur, et là, elle a parfaitement raison, sur la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui avait développé ce principe fondamental de législation sanitaire, un libre choix du thérapeute, Ce libre choix du thérapeute implique le libre choix de la thérapie, voire article L1118 du Code de la santé publique. Actuellement, vu ce constat, les patients en psychiatrie n'ont pas cette liberté de choix en matière de soins psychiatriques du fait des mesures de contrainte qui peuvent être mises en œuvre à tout moment, mais aussi des chantages aux prestations ouvertes avec les prises en charge psychiatriques. Bien. Et donc là, il y a un véritable axe de lutte, un véritable axe de revendication qui est absolument élémentaire, absolument fondamental. Et moi, ça, je suis tout à fait d'accord avec la docteure Valège. Alors là-dessus, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a constaté, en tant que transgenre et en tant que psychiatre, qu'il ne lui était pas possible de continuer la lutte qu'elle mène à titre personnel à l'intérieur du circuit psychiatrique. Oh ben ça, elle n'est pas la seule. Hein. Le docteur Jean-Michel Kahn en conclut autant, mais lui exerce dans le privé et puis s'efforce de fonctionner en parallèle. Mathieu Bellassène a été purgé des effectifs et fonctionne dans le circuit associatif, Nous, on fonctionne en alternative en s'efforçant d'être indépendant. Puis je pense que notre action est en fin de parcours, mais bon, on s'est rendu utile et on a fait œuvre utile. Et on constate les uns et les autres, et Anna Balège également, puisqu'elle a bossé en jonction avec le CCOMS de Lille, que par exemple les pères aidants professionnalisés, tenus par leur objectif de carrière, atténuent toute déclaration. Et se fliquent les uns les autres. Alors certains pères aidants prennent la parole librement, ils vont, mais dès qu'ils sont dans le cadre professionnel, hop. Moi j'ai eu quand même des entretiens avec une pères aidante professionnelle qui avait assisté à l'avant-dernière conf débat qu'on avait organisé, qui m'avait dit, parce que les responsables de la CCDH étaient présents, qu'elle ne voulait pas qu'on lui oppose dans sa carrière qu'elle avait participé à une conf dans laquelle il y avait ces gens-là. À ce moment-là, on vous désigne n'importe quelle personne, je ne sais pas quoi, faisant office de diable, et vous allez reculer en disant « j'ai peur ». Donc, en fait, ces gens-là sont quand même très contrôlés. Et donc, le seul moyen qu'on ait en France, vu les tutelles étatiques, vu que rien ne se fait sans les institutions, rien ne se fait sans les agences de santé, c'est de prendre notre indépendance, d'être groupusculariser dans notre coin, d'être certes, marginalisé, mais c'est seulement ainsi qu'on arrive à développer des trucs autonomes, indépendants, en liberté. Voilà, au contraire des pays anglo-saxons. Et là, je dois dire que c'était Aude Carrière qui avait attiré mon attention là-dessus, la directrice du Psychom, mais c'était également les travaux menés par Philippe Bernardet à l'époque, dans le cas du GIA. Dans les pays anglo-saxons, si on prend en mind le très puissant réseau d'aidants, de psychiatrisés et psychiatrisés du Royaume-Uni, lorsqu'ils ont été appelés à co-gérer le système dans les années 80, sous Thatcher, ils étaient financés sur des fonds caritatifs. L'État britannique s'était désengagé, évidemment. Leurs fonds venaient du caritatif. Donc, ils étaient indépendants. Au Canada, c'est pareil. Au Québec, c'est pareil. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un problème en France du qui paye et qui détient le pouvoir. Et en plus, même si on n'a pas de subvention, il faut savoir que de nos jours, avec les durcissements au niveau législation, quiconque intervient sur le terrain santé d'une façon déjà plus pertinente et plus pointue tombe sous le coup effectif ou potentiel des contrôles des agences régionales de santé. Parce qu'en plus, on ne peut intervenir en matière de santé de façon bien déclarée qu'avec des agréments des ARS. Alors, sauf si on fonctionne, ce qu'on fait, on le fait maintenant hors agrément ARS. Mais donc, il y a un véritable problème au niveau de l'indépendance. Et donc, ce constat que fait la docteure Anna Balège, nous, on le partage, qui est de l'intérieur de l'institution, ça paraît, c'est coincé en France. Il semble qu'il faille prendre ses clics et ses claques et fonctionner en alternative. Alors, oui. Sur le troisième thème, brièvement, à savoir la neurobiocratie actuellement en cours d'instauration en France, la biocratie est un régime politique et social où les différences de statut et de conditions sont basées sur les aptitudes biologiques et génétiques des personnes et où le pouvoir est détenu par le corps médical. Voir les progrès en gynécologie obstétrique, décryptage du code génétique, génétisation des problématiques de psychiatrie santé mentale, etc. etc. Choix des triages des gamètes, ovules, etc. et autres problématiques. Un des médecins psychiatres présents dans cette conf nous dit que dans l'établissement où il a travaillé durant les pics de la pandémie de Covid-19, un triage des malades a été opéré pour l'accès à la réanimation. Les malades mentaux dûment recensés comme tels n'étaient pas en l'espèce prioritaires pour une réanimation. Donc ma conclusion étant bien la suivante, les personnes psychiatrisées forment de fait une sous-humanité au regard de catégories sociales qui sont considérées comme s'intégrant à une humanité à part entière et qui servent d'étalon, de modèle. La moindre des choses est que nous puissions nous défendre, défendre nos droits, inclus ce droit de ne pas être ségrégué et déshumanisé. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, les hommes, au sens générique, naissent et demeurent libres et égaux en droit. La distinction sociale ne peut être fondée que sur l'utilité commune.
Eh bien, voilà, liberté de choisir son thérapeute, liberté de soins, et voilà pourquoi il faut militer.
Oui, quand même.
Merci André, et nous vous disons... À la semaine prochaine, c'est fini l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous retrouvons l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée.